Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlerons de géopolitique, d'islamologie, du lien entre les deux, d'une lecture intelligente de ces rapports internationaux et de ce qui concerne effectivement l'idéologisation et la violence qui sévit au nom de la tradition religieuse islamique, avec le chercheur et le politologue Hawass Seniger. Hawass Seniger, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous présente à nos chers amis auditeurs. Vous êtes islamologue vous-même, vous êtes politologue, maître de conférence à Sciences Po Lyon. Et vous êtes chercheur à Triangle, qui est un laboratoire pluridisciplinaire à Lyon. Et vous êtes aussi chercheur à l'Institut supérieur d'études sur les religions et la laïcité. Merci de nous faire l'amitié de venir. Et ce qui m'a intéressé personnellement dans vos travaux, c'est que vous dites qu'il faut quand même un peu de rigueur, de sérieux, préciser le cadre théorique de tout ce qui se passe avec beaucoup d'approches académiques et universitaires. Alors, j'ai envie de vous poser la question, Hawass Seniger. Ce qui se passe dans le monde et notamment dans cette région du monde qui a vu naître la monstruosité idéologique et religieuse par cette organisation para-étatique, prétendument nommée État islamique, Daesh, l'acronyme arabe, ça relève de quoi ? De la religion, de la politique, des deux ?
Vous avez utilisé un mot ou une phrase absolument essentielle, le cadre théorique et méthodologique qu'il faut aborder de prime abord pour penser cette question des rapports entre religion et politique dans les mondes de l'islam. D'ailleurs, les mondes de l'islam francophones ou arabophones. Je dirais que il faut, pour commencer, ne pas envisager l'islam in abstracto, de situation ou d'acteur donné. Je pense que si l'on veut, et c'est ma conviction, penser les phénomènes du très contemporain sur la base du paradigme religieux, mais aussi sur la base du paradigme politique, insister sur les types d'acteurs sur lesquels on travaille et dans quel contexte on travaille. Et dès lors que l'on définit méticuleusement un corpus, on évite de faire le raccourci qui parfois peut s'entendre, s'observer, se vivre aussi pour un certain nombre de nos concitoyens, d'un continuum improbable entre l'appartenance à l'islam et le passage à l'acte violent. Comme si, au fond, il y avait un lien mécanique, un continuum, une fatalité.
Qui est Hawass Seniger? Être musulman, ça fait du musulman un islamiste qui deviendra salafiste, djihadiste, terroriste. Naturellement, c'est la question, elle est plutôt de nature, de degré. Elle n'est pas la différence, elle n'est pas de nature.
Oui, c'est là où le corpus est important parce que le musulman n'est pas par essence solidaire des exactions qui sont commises à travers la planète. Auquel cas, nous nous condamnons à une méfiance réciproque et définitive entre musulmans et non musulmans parce que certains musulmans condamne la violence commise au nom de la foi qui est la leur. Et à ce titre, me semble-t-il, il ne faut pas adjectiver l'islam. L'islam n'est pas un agent intentionnel, il n'est pas incarné, ou plutôt il est incarné à travers des hommes, à travers des sociétés et des parcours individuels. Et ce faisant, pour répondre cette fois-ci plus précisément à la question de l'objet Daesh ou de l'autoproclamé État islamique, il est à la confluence du politique et du religieux. En d'autres termes, la variable religieuse est utilisée par ses doctrinaires. Et à ce titre, plus que jamais, il faut faire une distinction entre les doctrinaires, les producteurs du discours de l'État islamique et les exécutants. Les doctrinaires, eux, savent de quoi ils parlent, puisqu'ils mobilisent un corpus. Les exécutants, peut-être pas. Et souvent, dans le débat public, on confond doctrinaire et exécutant. il y a cet aspect religieux et puis bien sûr un aspect politique. L'État islamique ne naît pas ex nihilo. Il naît où ses ancêtres naissent à peu près en 2004, 2005, voire 2006. Dans un contexte donné, dans un contexte objectif.
Là, on est dans sa proto-histoire.
Absolument. C'est-à-dire que l'État islamique naît a posteriori de l'invasion anglo-américaine de 2003. Donc, un contexte va se prêter à une forme de radicalisation religieuse. C'est la raison pour laquelle il serait absurde, et très absurde, de ne considérer que la variable religieuse dans la survenue de l'État islamique. Il y a cet aspect religieux qui mobilise, qui est une variable motrice pour un certain nombre d'acteurs qui s'engagent au sein de cette organisation pour des mobiles religieux et d'autres qui se mobilisent au sein de cette organisation pour des mobiles politiques. Par exemple, l'indépendance irakienne, pour d'autres fins, bien sûr, l'établissement de l'État islamique. Et il faut bien avoir à l'esprit ce savant dosage entre la référence à l'islam telle qu'elle est mobilisée par ses acteurs et la référence ou le renvoi à un contexte politique et géopolitique déterminé.
Ça, c'est au niveau des rapports internationaux. Mais la question à la fois de violence, le fait d'utiliser la donne islamique comme un moyen de rupture, ce que pour certains ont une explication, une condensation multifactorielle et pluridisciplinaire, et multicausale de cette émergence de violence. Dans votre analyse à vous, il y a une bonne dose du politique adjuvé en quelque sorte dans un discours religieux.
Oui, moi je ne me satisfais pas des lectures de certains collègues politistes. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais aussi, il faut essayer d'avoir une approche multifactorielle, vous l'avez dit, et ça s'inscrit tout à fait dans la tradition du sociologue Max Weber, mais aussi d'une pluridisciplinarité. Chaque discipline a son mot à dire sur l'objet État islamique ou l'objet violence au nom de l'islam. Et ce qui me différencie d'un certain nombre de collègues politistes, c'est que j'estime qu'il n'y a pas simplement la dimension politique, l'usage politique de l'islam, mais un usage religieux. Et on ne comprendrait pas sinon comment se fait-ce que des acteurs musulmans qui n'évoluent pas dans le contexte moyen-oriental, eux-mêmes se trouvent en sympathie ou trouvent de la sympathie vis-à-vis de l'État islamique. Donc cette organisation ne saurait se réduire simplement une dimension géopolitique. Je vais donner quelques exemples précis. Un exemple qui moi-même m'a saisi. Au moment où Al-Baghdadi à Mossoul, en paraphrasant quasiment trait pour trait le discours du premier calife de l'islam, Abou Bakr, annonce le califat le 29 juin 2014, l'une des premières réactions du magistère sunnite légitimiste, je parle de ceux qui condamnent assurément les faits de terrorisme commis par l'État islamique, la première des remarques, ce n'est pas de condamner principiellement, du point de vue des principes, le califat, mais de dire que ce n'est pas la bonne personne qui l'a proclamé, et surtout que les conditions n'étaient pas réunies pour proclamer le califat. Et ce faisant, et sans le vouloir probablement, et là on retrouve aussi une intuition, un développement très intéressant du sociologue Durkheim, il y a une non-conscience des acteurs sociaux. Vous avez des acteurs sociaux musulmans qui évoluent dans le contexte européen, qui d'un côté condamnent explicitement la violence de Daesh, mais qui de l'autre justifie du point de vue des principes l'établissement d'un califat prospectif. Et cela met dans l'embarras les musulmans ordinaires qui, eux, n'ont rien demandé.
Oui, et dans vos articles, dans vos travaux, dans vos recherches, vous donnez les noms des uns et des autres, et vous dites que dès lors que la liberté et la dignité sont le bien commun, ce sont des valeurs fondamentales, et qu'on peut y accéder, les recouvrer sans nécessairement avoir cette collusion du politique et de la religion. Du coup, le califat n'ayant aucune valeur sacrale, il n'y a aucune raison de le proclamer.
Oui, c'est la confusion qui provoque cette idée selon laquelle le califat serait un horizon de désirabilité. Il l'est pour un certain nombre de musulmans observants. Mais quand on se plonge de façon sérieuse sur l'histoire du fait musulman ou du fait islamique sur ces textes, il y a des aspects, des universaux que personne d'autre, que même un non-musulman pourrait partager ou avoir en partage. Vous l'avez explicitement indiqué, la dignité est une valeur fondamentale, que partagent musulmans et non-musulmans. Et on peut en référer à ce titre aux révoltes dans le monde arabe, qui ont eu malheureusement des débouchés malheureux parfois aussi, mais ce qui est apparu, ce qui a jailli à ce moment-là, à la fin de l'année 2010, début de l'année 2011, c'est le souffle révolutionnaire qui était animé, oxygéné par un besoin de dignité. Et la religion, qui était peut-être présente, l'était implicitement ou suffisamment implicitement pour que cela n'apparaisse pas au grand jour. Et cette dignité peut prendre une sémantique, une grammaire, une syntaxe différente. Mais la finalité est la même. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas simplement un moyen, mais aussi et surtout une fin. Pour reprendre les catégories chères au philosophe Emmanuel Kant. Oui.
Et les mots d'ordre lors de ces manifestations étaient des mots d'ordre laïque, si je puis dire, de type laïque. Et vous ajoutez à juste raison que la laïcité, parfois d'une manière mal intentionnée, a été présentée comme synonyme, sinon de l'athéisme, au moins d'une forme d'incroyance et d'un combat un peu anticlérical. Je parle en contexte islamique.
Oui, il y a une mauvaise compréhension, une incompréhension, une mécompréhension de la laïcité en contexte majoritairement musulman. Mais je reste optimiste et je veux dire pourquoi je suis optimiste, y compris en contexte majoritairement musulman, où généralement l'islam est érigé en religion d'État. Il est vrai que quand on parcourt la littérature d'un certain nombre d'idéologues de l'islamisme ou de l'islam politique, laïcité est prise en mauvaise part comme synonyme d'athéisme. Et cela peut s'expliquer contextuellement ou en contexte. Il est vrai que comme la religion d'État et l'islam, tout ce qui peut apparaître comme le désir ou le souhait de disjoindre le politique d'avec le religieux est considéré comme potentiellement attentatoire à l'intégrité morale et religieuse, voire physique, des musulmans. Mais ce qui me laisse optimiste, c'est que même chez un certain nombre d'acteurs de l'islamisme, je pense notamment au cas marocain que je connais davantage, pour y avoir effectué une thèse de doctorat, précisément sur le Parti de la Justice et du Développement, qui est un parti islamiste marocain, certaines figures de ce parti admettent aujourd'hui, je pense notamment au psychiatre théologien Saad Din Uthmani, admettent une possible positivité de la laïcité en contexte majoritairement musulman. Et pour ce faire, il utilise deux catégories en langue arabe. Il dit effectivement, en terre d'islam majoritaire, on ne saurait parler de fasl, de séparation du politique et du religieux. Néanmoins, il est possible de parler de tamiz, de distinction du politique et du religieux. Je ne dirais pas que c'est tout à fait équivalent à la laïcité au sens où on l'entend en France, mais cette catégorisation nouvelle traduit, s'il était besoin d'en douter, une modification, y compris chez les acteurs de l'islam politique, du rapport à l'islam. Et cela permet de dire que philosophiquement, d'une certaine manière, la laïcité a triomphé.
Oui, et c'est un début en tout cas, parce qu'on finira par comprendre le non-sens total de croire qu'un État puisse avoir une confession et que l'administration devienne responsable de la conscience de ses administrés et des citoyens.
C'est problématique. Dès lors que vous constitutionnalisez, dès lors que vous institutionnalisez une religion, de jure et de facto, vous provoquez de la discrimination. On a beau ensuite inscrire la liberté de conscience dans les textes constitutionnels, vous ne vous prémunissez pas totalement des discriminations dont peuvent faire l'objet pas assez musulmans, des non-musulmans, donc des agnostiques, y compris des observants d'autres traditions religieuses. Et ce phénomène s'applique quel que soit le contexte considéré. Il ne s'agit pas de dire que c'est simplement le monde majoritairement musulman qui serait confronté à cette question de l'ethnicisation de l'État. Prenons un exemple, une analogie qui permette de prendre un peu de hauteur.
À la fois ethnicisation et confessionnalisation.
Absolument.
De l'État.
Prenons le cas de l'État d'Israël. C'est un cas très intéressant. Le fait de rendre cet État, en faire un État juif, provoque, là aussi, quelles que soient les précautions qu'on prend, une discrimination à l'endroit de ceux qui n'ont pas la judéité en partage. Et cela a fait dire d'ailleurs à l'historien de Tel Aviv, Shlomo Sand, qu'il trouvait anormal que son État, l'État d'Israël, puisse institutionnaliser une référence à une culturelle ou religieuse, puisque cela donnait plus de droits à un juif qui a vécu très loin de ses terres par rapport à quelqu'un qui vivrait sur le territoire israélien, mais qui n'aurait pas la judéité en partage. Et cela, vous voyez, ça s'applique aussi bien au monde majoritairement musulman qu'au monde juif ou d'autres États où la religion serait constitutionnalisée. Pour revenir plus précisément au contexte majoritairement musulman, ce qu'on observe, c'est que un certain nombre d'acteurs sociaux, conservateurs, islamistes ou non, freinent des quatre fers pour éviter notamment que la liberté de croyance soit inscrite en lettres d'or dans les constitutions nationales. Et je vais en revenir une fois de plus au cas marocain, puisqu'il faut parler à partir du terrain et de sa connaissance. En 2011, au moment même où allait être votée cette nouvelle constitution qui a été adoptée à 98% le 1er juillet 2011, pendant un temps, il était envisagé d'inscrire la liberté de croyance dans la constitution finale. Or, un certain nombre d'acteurs, le roi y compris, a refusé l'inscription de cette liberté de croyance. Et quand on regarde les justifications qui sont données, notamment par les islamistes du Parti de la Justice et du Développement, les explications méritent qu'on s'y attarde quelque peu. La crainte, c'est comme ça que c'était formulé, à peu de choses près, que le Maroc soit exposé à l'athéisme ou même à l'évangélisation potentielle. Puisque, je dirais, les vaccins auraient sauté, aurait périclité.
Donc encore une fois, l'administration s'érige comme garant de la conscience et de la confession de ses administrés, alors que ce n'est pas son rôle.
Oui.
Ce n'est pas le rôle de l'État, qui en réalité doit garantir plutôt le respect des droits fondamentaux de l'ensemble des citoyens, et le citoyen pris cette fois-ci in abstracto de ses appartenances dans un premier temps.
Oui, sinon au risque de se trouver devant des situations périlleuses. Et une fois de plus, il faut donner des exemples concrets. En 2008, vous avez un cheikh qui s'appelle Mohamed El-Marraoui, plutôt leader d'un courant salafiste marocain, qui a édicté un avis religieux dans le royaume chérifien. Que disait cet avis religieux ? L'autorisation pour les adolescentes de 7 ans d'être mariées ou de se marier, et possibilité à partir de 9 ans d'avoir des relations sexuelles. Et cela avait suscité un tollé, un vaste tollé sur le territoire national, puisque Marraoui, simplement, selon sa lecture, il s'est appuyé sur une tradition attribuée au prophète de l'islam, selon lui. Et le magistère sunnite marocain s'est trouvé en difficulté pour désamorcer cet avis religieux, puisque très précisément, Al-Marraoui s'appuyait sur des textes consacrés par le magistère sunnite, y compris marocain. Et plutôt que de remettre en cause fondamentalement le texte, les oulémas officiels du territoire marocain ont simplement dit que Marraoui n'était pas habilité, compte tenu de son statut, à émettre un avis religieux. Mais à aucun moment, il ne s'est agi de déconstruire du point de vue des principes, une fois de plus, ce qui a nourri la vie religieuse en question.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec le politiste, politologue, islamologue Hawa Seniguer, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études politiques à Lyon et vous êtes chercheur à la fois au laboratoire Triangle, un laboratoire pluridisciplinaire, et aussi chercheur à l'Institut supérieur d'études sur les religions et la laïcité. Nous parlons avec vous ce matin d'avoir une lecture rigoureuse, froide, académique, de l'émergence à la fois de la violence, son nom de la tradition religieuse islamique, de ses explications, et nous étions en train de parler de la collusion qu'il y a à instrumenter, instrumentaliser, idéologiser, manipuler, domestiquer, étatiser la donne religieuse pour d'autres fins que spirituelles.
Oui, et c'est pourquoi je parle d'une double libération dès lors qu'on considère à sa juste valeur, ou que l'on considère à sa juste valeur, les conséquences heureuses d'une disjonction du politique d'avec le religieux, ou d'une séparation du politique d'avec le religieux. Une double libération, une libération religieuse, puisque dès lors que vous séparez les ordres, vous donnez une plus grande liberté à ceux qui s'inscrivent dans une tradition religieuse quelle qu'elle soit, c'est la première forme de libération.
Et ce que l'Église catholique a compris bien plus tard.
Exactement. Et la seconde libération, concomitante ou et consubstantielle, c'est la libération politique. Dès lors qu'il y a séparation, le politique ne pourra plus revendiquer une légitimité en dehors des urnes, ou du système électoral, ou de l'alternance, et d'accepter, ce faisant, l'alternance au sommet de l'État. C'est la raison pour laquelle il est, je pense, de bon aloi de parler d'une double libération. Et finalement, chacun pourrait se retrouver dans cette double libération. Les religieux, ceux qui estiment que le religieux doit irriguer, doit informer leur existence, et ceux qui estiment, parce qu'ils sont laïcs, convaincus, que le politique doit être l'objet de délibérations publiques contradictoires et que la religion est le bien commun, contrairement à ce que certaines figures tutélaires prétendent.
Oui, et dans le cas où il y a une telle collusion entre la politique et la religion, s'il advenait qu'un citoyen fût opposant politique ipso facto et il devient hétérodoxe et hérétique, et si ça lui prend d'abjurer sa religion, il devient ipso facto un opposant politique. Alors que dans un cas comme dans l'autre, il aurait pu être un bon pratiquant et un bon, selon la norme religieuse, bien admis. Et dans l'autre, il aurait pu être un soutien même à la politique menée.
Oui, parce que j'ajouterais d'ailleurs, suite à ma première observation et en rebondissant également sur votre dernière question, c'est qu'effectivement, tout le monde y perd de cette confusion. Et on l'a vu en Algérie, à la fin des années 80, début des années 90, au moment où il y a eu une libéralisation, l'inscription du multipartisme après les émeutes d'Alger de 88, et le fait qu'un parti, le FIS en l'occurrence à l'époque, le Front Islamique du Salut, ait pu revendiquer une légitimité sur une prétention de détenir le monopole des voix de Dieu. Et d'ailleurs, un chantage était fait aux Algériens à l'époque. Si vous choisissez un autre parti que le FIS, en quelque sorte, vous vous exposez aux damnations éternelles.
Et vous allez périr dans le feu de l'enfer.
Et on voit bien cette prise en otage des administrés ou des co-sociétaires qui eux-mêmes pouvaient être musulmans, et vous leur faites un chantage à la sensibilité religieuse. Donc, si l'on veut être totalement ou tout à fait complet, il y a une instrumentalisation de la part des États ou des régimes tels qu'établis, notamment après les indépendances nationales, mais aussi une instrumentalisation de la part d'opposants qui sont effectivement en opposition par rapport à l'autoritarisme, mais qui utilisent le vecteur religieux pour culpabiliser en quelque sorte les co-sociétaires.
Alors revenons à cette idée aussi, j'ose la qualifier moi-même et je le revendique, d'idée saugrenue et biscornue, du mandat du jurisconsulte dans le cas iranien. Y a-t-il une infaillibilité? Qu'est-ce que c'est que cette affaire du jurisconsulte? Qu'est-ce qui lui a conféré cette mainmise, notamment sur la police et la justice? Et pourtant, on a le formalisme creux de la démocratie par les élections afin d'élire le président de la République.
Oui, alors sans prétendre une prétention bien vaine, être spécialiste du cas iranien, ce cas-là mérite qu'on... Peut-être que c'est l'occasion de discuter de votre question, le jurisconsulte, ou Wilayat al-Faqih, dans le système iranien. Cette idée que finalement, il y aurait une personnalité religieuse suffisamment pénétrée des voies de Dieu pour administrer l'État ou présider aux destinées de la société iranienne dans le cas qui nous intéresse. Il s'agit, peut-être comme un premier élément, d'une utilisation d'une terminologie coranique, wilaya. Ce terme qui est utilisé comme vecteur de légitimation de cet ordre politique qui n'est pas forcément contenu dans le texte coranique. Et dans le cas iranien, effectivement, le terme ou l'expression wilayat al-faqih consiste à donner une dimension sacrée et sacralisée à cette confusion du politique et du religieux, de telle sorte à mettre la figure, en l'occurrence à l'époque Khomeini, aujourd'hui Khamenei, en dehors d'un système d'évaluation profane. Quand vous sacralisez, comme c'est le cas dans le cas iranien, l'ordre politique, il n'y a plus de contestation possible puisque la personne ou les personnes qui occupent des fonctions religieuses échappent à la critique bien trop humaine de nous autres. Et cela doit être aussi mis en lien avec le travail qui a été fait par les penseurs de l'islam politique durant la première moitié du XXe siècle, par Hassan Banna et Seyd Qutb. Et vous allez voir, il y a un lien inattendu entre les islamistes égyptiens en l'occurrence, Hassan Banna et Seyd Qutb, qui sont nés d'ailleurs au même moment, en 1900.
Hassan Banna, fondateur de la confrérie des frères musulmans. Oui.
Et Seyd Qutb, son concitoyen. Seyd Qutb, lui, est mort pendu par Nasser en 1966. Ce sont eux qui ont donné les concepts aux futurs révolutionnaires iraniens, et notamment Khomeini. Et de quelques sources que l'on peut consulter, Khomeini aurait même rendu visite à un moment donné à Hassan Banna. C'est dire que cette idéologisation de la religion est une nouveauté que l'on doit essentiellement à la première moitié du XXe siècle. Et on voit cette circulation entre le sunnisme et le chiisme, alors que spontanément, on aurait tendance à opposer les deux. Sur bien des points, il y a une opposition possible entre les deux obédiences. Mais en l'occurrence, la politisation, c'est ce qui a fait le trait commun ou le lieu de rassemblement entre chiites politisés et sunnites politisés. Et toute sacralisation empêche, je le redis, l'exercice plein et entier de la souveraineté populaire.
Hawass Seniger, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que l'islamisme politique, la politisation à outrance est ce que vous dénoncez et vous mettez en exergue toutes les aberrations, ne relève pas d'une approche plutôt récente dans l'histoire de la civilisation islamique, une civilisation plurielle, ou y a-t-il quelque chose de consubstantiel au sens où a-t-on gouverné toujours au nom de Dieu ?
Il y a deux niveaux, ou peut-être trois niveaux qu'il faut distinguer. Le premier niveau, c'est un niveau, je dirais, textuel. Le texte coranique, qui fait 6236 versets, 114 chapitres, ne comprendrait qu'entre 200 et 634 versets dits normatifs, ayatul ahkam.
Principiel, paradigmatique, législatif ou prescriptif.
Exactement.
Et davantage de 100 que 600.
Et ce qui est étonnant, c'est que au sein même de ces versets dits normatifs, on ne sait pas ce qui est l'ordre du prescriptif et du descriptif. Ce qui réduirait encore la part de normes. Du point de vue.
Et avec le jeu de l'abrogeant et de l'abrogé, ça réduit davantage aussi la portée dite législative de ces versets.
Exactement. Du point de vue textuel coranique, on n'a pas réellement de légitimité à dire qu'il y aurait un modèle compris, contenu dans la révélation dite divine. Par ailleurs, le terme sharia, qui est si souvent investi aujourd'hui dans le débat public, n'apparaît qu'une seule fois sous forme nominale.
Un apax.
Exactement.
Le verset 18 de la sourate 45. Et dans l'ordre d'un ordre et pas d'une voie d'ordre et pas d'une loi.
Exactement. Et si on veut faire bonne mesure, on citera également Averroès ou Ibn Rushd qui, pour synonyme de religion, parlait de sharia. On n'est pas du tout dans la loi civile, la loi politique. Par ailleurs, au niveau des traditions attribuées aux prophètes de l'islam, ce qu'on appelle communément la sunna ou les hadiths, ces paroles,
les
aphorismes, on a plutôt des éléments qui nous permettraient de penser qu'il y a une distinction possible des ordres. Et cette parole attribuée au prophète Mohammed, prophète de l'islam Mohammed, qui dit « Antum a'lamu bi umuri dunyakum », vous êtes plus sachant ou plus savant concernant les affaires de votre monde. Voilà une piste textuelle qui permet de dire que cette confusion n'est pas évidente. Du point de vue historique cette fois-ci, quand on regarde de près l'action du prophète de l'islam entre 610 et 632, 610 étant le début de cette mission supraterrestre, pour ceux qui y croient, c'est que au moment où il arrive à Médine, en 622, en 623, il proclame ce qu'on a appelé la Sahifa, qui est une charte en quelque sorte. Oui. Il y a un débat des historiens sur l'authenticité, est-ce que ça a été fait pendant, après, mais toujours est-il...
Et le nombre de ses articles...
Probablement. Mais toujours est-il que cette charte était la base d'une organisation supratribale, multiconfessionnelle, où le critérium définitif et décisif n'était pas l'appartenance à l'islam. Et en outre, le prophète de l'islam, Mohammed, n'a jamais parlé de Dawla Islamia de son vivant. On n'a pas de trace de l'expression État islamique.
Et que Daoula, longtemps, renvoyait à la notion de dynastie et jamais à la notion d'État. Et en parlant de cette charte de Médine, on oublie que la Oumma, la communauté, la matrie des citoyens, le mot citoyen n'est pas tout à fait approprié, eh bien, comprenait les Juifs de Médine.
C'est un démenti textuel et historique, en tout cas s'agissant des premiers temps de l'islam, de cette politisation intrinsèque supposée. Troisième niveau dont j'ai parlé en prélude, c'est le niveau historique mais postérieur à la mission la vie de Mohammed. C'est au niveau des pouvoirs, Omeyyades comme Abbasides, on se rend compte en faisant un peu d'histoire, même rapidement, que les Omeyyades n'ont pas réellement gouverné sur une base religieuse. Et on sait que de nombreux califes étaient amateurs de plaisirs mondains et qu'ils pouvaient avoir plusieurs conquêtes féminines, s'abreuver d'alcool par exemple, sans pour autant, exposer publiquement l'islamité comme un étendard.
Oui, avec leurs poètes bachiques dans leur cour, bien entendu, les califes omeyyades voulaient simplement copier le modèle byzantin. Ils ont voulu être des monarques, rien d'autre. De ce point de vue-là, ils ont gouverné, sinon d'une manière anti-islamique, au moins d'une manière an-islamique, au regard des normes actuelles chez les islamistes politiques.
Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs, c'est peut-être les Abbassides, hypothèse, à partir de 750, qui abonderont davantage dans le corpus religieux pour légitimer leur pouvoir. Et d'ailleurs, certains califes portaient la burda, ce vêtement qu'aurait porté le prophète de l'islam. Mais effectivement, quand on observe de près cette histoire des mondes majoritairement musulmans, on se rend compte, et c'est une hypothèse que je formule dans cet opuscule que j'ai écrit en 2013 et qui devrait paraître sous une forme augmentée et corrigée, Petit précis d'islamisme des hommes, des textes et des idées, où je dis clairement que la création des frères musulmans en 1928 est une rupture dans la manière de penser et d'envisager les rapports entre politique et islam. Et ce qui apparaît comme une singularité dans le programme de Hassan al-Benna, c'est cette systématicité attribuée à l'islam. En d'autres termes, dans la pensée de Hassan al-Benna et de ceux qui lui succéderont, qui le suivront, c'est l'idée que l'islam doit absolument informer l'ensemble des actes et des pensées du quotidien, du musulman en l'occurrence. Il y a cette idée que l'islam est l'alpha et l'oméga de l'action sociale, de l'action culturelle, de l'action politique, de l'action économique, et qu'il n'y aurait point de salut pour le musulman en dehors de ce viatique confusionniste. Et on parle d'ailleurs de Shumuliyat l'islam chez Hassan al-Banna.
Oui, une religion englobante, totalisante, pour ne pas dire totalitaire, mais en tout cas totalisante.
Exactement. Et dans l'ensemble des épîtres qui rassemblent les lettres écrites par Hassan al-Banna, il y a cette perspective de califat. Il y a la perspective de l'État islamique, un État islamique qui appliquerait scrupuleusement la charia envisagé comme loi civile, loi politique contraignante, et la perspective d'après, après l'établissement de l'État islamique dans chacune des entités musulmanes, la perspective du califat. Et c'est une question polémique que je vais poser, mais c'est une provocation qui permettra une réflexion. C'est que cela même qui aujourd'hui, ici et maintenant, en contexte majoritairement musulman, comme en contexte non majoritairement musulman, qui s'inscrivent dans l'héritage de Hassan al-Banna, acceptent-ils cette idée califale? S'ils acceptent l'héritage de Hassan al-Banna sans le déconstruire, ils se trouvent solidaires, peut-être sans le vouloir, d'une pensée globale, globalisante, qui met bien des musulmans sunnites observants dans l'embarras.
Oui, et vous avez raison. Vous pensez aussi, comme certains, que la réaction de Hassan al-Banna et un peu de ses doctrinaires est dû au fait que l'abolition du califat par la GANT, la Grande Assemblée Nationale Turque, le 3 mars 1924, et puis la proclamation par Mustafa Kemal Atatürk trois jours plus tard, le 6 mars 1924, était perçue comme un traumatisme, parce qu'on ne pourrait plus, dans ce cas, appliquer la lex aeterna, la loi éternelle, la loi de Dieu, parce que eux, ils auraient perçu et pénétré le désir politique de Dieu et scruter sa volonté pour appliquer sa loi. Donc c'est plutôt une réaction due à ce traumatisme ou c'est le 21e siècle qui est venu avec cet avatar chez les frères musulmans? Voilà ma question, Hawa Seniger.
Alors, il y a des facteurs objectifs et des facteurs subjectifs. Les facteurs objectifs, vous avez tout à fait raison de le marteler, c'est effectivement l'abolition du califat par Mustafa Kemal. Donc, c'est une violence symbolique, en quelque sorte, pour les musulmans qui se sont sentis, en tout cas un certain nombre d'entre eux, qui se sont sentis déclassés.
Pardon, Hawa Seniger.
C'était pas le cas de Ben Badis, par exemple, en Algérie.
J'allais dire qu'il y avait des intellectuels qui s'étaient réjouis, qui s'étaient félicités, qui avaient regretté que ce fût aussi tardif, parce qu'ils ne voyaient pas dans le califat la moindre valeur sacrale.
Cette référence à Ben Badis est fondamentale, parce qu'elle nous permet, une fois de plus, de désessentialiser notre rapport à l'islam et à l'héritage musulman. Et Ben Badis, effectivement, lui, il voyait plutôt une voie de salut potentielle que cette abolition.
Et donc, il y avait Ben Badis et d'autres aussi,
et bien d'autres. Et il y a cet aspect objectif, une violence symbolique, un sentiment de déclassement. Il y a aussi la réalité de la colonisation britannique en Égypte. Cette présence coloniale pèse de tout son poids. Et l'idée que l'islam est libérateur passe plus aisément en contexte de colonisation qu'en contexte où les musulmans seraient en quelque sorte les dépositaires de cette autorité politique et juridique.
Et les manipulations du roi Fouad Ier qui voulait être calife à la place du calife.
Comme toujours dans les convoitises humaines, bien trop humaines. Et ça, ce sont des facteurs objectifs qu'il est bon de rappeler. Il y a les facteurs subjectifs. C'est que, et là j'en réfère à une lecture absolument prodigieuse qu'exécute et que fait l'échec Kolakowski, ce philosophe polonais qui écrit « Philosophie de la religion » en 85, aux éditions Fayard, pour être précis, et qui d'ailleurs sera professeur Oxford, il mourra d'ailleurs là-bas, c'est que il y a une force autonome du religieux qui dépasse les contextes et les conjonctures. Et il y a aussi une croyance, une adhésion de Hassan al-Banna pour ce projet. On peut expliquer cela conjoncturellement, c'est vrai. Mais il y a un facteur structurel, et je vais donner un exemple concret au vecteur structurel. C'est que si c'était simplement conjoncturel, comment se fait-il que l'héritage de Hassan al-Banna soit passé aussi aisément, y compris en contexte européen, où la démocratie est établie depuis des siècles? C'est donc qu'il y a une motricité de ce type de représentation religieuse qui a encore une incidence dans l'imaginaire d'un certain nombre de musulmans. Et ce faisant, on peut penser, vous voyez, le religieux à la fois, ou le religieux politisé conjoncturellement, mais aussi structurellement. Et cet exemple de l'actualité de cette dette vis-à-vis de Hassan al-Banna m'est apparu au grand jour au moment de mes enquêtes de terrain au Maroc, où spontanément, les leaders que j'avais en face de moi, donc les leaders de l'islam politique, admettent sans rechigner le profond héritage de Hassan al-Banna.
Oui, avec aussi ces mots d'ordre et préparer l'heure.
Ouais,
on a tronqué un passage coranique, un verset coranique, et préparer l'heure, ce que vous pouvez de force.
D'ailleurs, Aïdou peut s'entendre de deux manières. Si on tronque le reste, c'est préparer ou préparez-vous. Préparez quoi et préparez-vous à quoi? On le devine.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous débattons de cette collusion entre le politique et le religieux en contexte islamique et dans certaines doctrines chez des idéologues et doctrinaires islamistes avec le politiste et politologue Hawa Seniger. Hawa Seniger, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études politiques à Lyon. Et vous êtes chercheur associé à la fois au laboratoire Triangle, qui est un laboratoire pluridisciplinaire, et aussi à l'Institut supérieur d'études sur les religions et la laïcité. Nous consacrons cette troisième partie de notre entretien ensemble sur, donc, du coup, comment avoir une lecture objective, sérieuse, rigoureuse, académique de tous ces conflits. Et quelle gageure, mais vous allez pouvoir y répondre, petit à petit sortir par le haut de ce magma, de ce fatras idéel et intellectuel.
Je parlerai du contexte français. Il y a quelque chose auquel je suis sensible, puisque j'ai effectivement une fonction universitaire où j'interviens auprès des étudiants ou dans des conférences, mais je donne aussi quelques conférences dans des milieux musulmans. J'étais d'ailleurs récemment à l'invitation de l'association AMA à Saint-Chamond pour y donner une conférence sur l'islam entre projet spirituel et idéologie. Je crois que plus que jamais, la collectivité dans son ensemble, en France, doit être sensible à deux éléments. D'abord, le premier élément, c'est l'idéologisation de la laïcité. C'est-à-dire, la laïcité est parfois devenue un instrument de la part de certains politiques ou activistes, comme un moyen d'altérisation ou d'antagonisation de la société française. C'est-à-dire le sentiment de renvoyer les musulmans à une indéfinie altérité. De l'autre côté, et c'est un autre mouvement d'idéologisation, l'idéologisation de l'islam, qui se nourrit aussi de cette défiance laïciste et de cette défiance provoquée par l'idéologisation de la laïcité pour nourrir des lectures radicales. Et la meilleure manière, mais ce n'est que moi qui parle et je suis soumis à erreur et à questionnement moi-même, la meilleure manière d'en sortir, c'est de tendre la main aussi aux musulmans qui sont sensibles et qui se trouvent dans une situation de déréliction, de solitude morale par rapport à ce contexte, et qui veulent faire un effort, précisément pour repenser leur rapport à la religion. Et si on ne veut pas se les aliéner collectivement, il est important à la fois de reconnaître des discriminations dont ils peuvent être victimes, et en même temps admettre la réalité d'une politisation de l'islam qui est une politisation mortifère. Et si l'on arrive à tenir en équilibre ces deux positions, je pense très sincèrement, et je le redis, je suis optimiste, qu'on sortira de l'ornière.
Et on sortira par le haut. Vous avez dit au cours de cet entretien que la tradition religieuse islamique, l'islam n'a pas besoin d'être adjectivé, n'a pas besoin qu'on lui accole des épithètes, tout comme d'ailleurs la laïcité qui n'a pas besoin de lui coller des épithètes quelles qu'elles soient. Alors elle est ouverte, bienheureuse, bienveillante, tolérante, positive, inclusive, avec ce qui sous-entend comme antonyme malheureuse, intolérante, fermée, négative, et que sais-je encore. La laïcité est un principe juridique sans épaisseur idéologique,
oui,
en réalité.
En principe, cela devrait être ainsi, un principe formel, juridique, sans contenu moral. Aujourd'hui, quand vous écoutez les discussions ou les débats, à un niveau, je dirais, macro, à un niveau micro, souvent, des personnes se présentent comme étant laïques. Comme si la laïcité était une religion en tant que telle.
La religion de ceux qui n'ont pas de religion.
Exactement. Mais les musulmans eux-mêmes, dans une immense majorité, sont laïcs. En ce sens, ils respectent l'ordre légal, l'ordre juridique. Ils n'insinuent pas ou ils ne cherchent pas à contraindre les causes sociétaires à l'observance méticuleuse des normes religieuses réelles ou supposées, en privé ou en public. Et le fait même de devoir adjectiver un principe comme la laïcité est bien le synonyme qu'il s'agit d'un construit social, sociopolitique, qui est l'objet de réinvestissements, y compris contradictoires. Et d'ailleurs, les partisans de la laïcité ne sont pas d'accord entre eux pour savoir ce que l'on entend exactement par là. De façon principielle, de façon simple, c'est simplement le respect de la liberté de croyance, d'observance ou de non-observance des citoyens, et surtout qu'il n'y ait pas d'immixion du politique dans le religieux et du religieux dans le politique. Si l'on se tient à ces principes simples, on pourra s'en sortir tous de façon et faire œuvre utile, s'en sortir de façon positive et faire œuvre utile. On se rend compte néanmoins que la laïcité aujourd'hui est moins contestée par ce qu'elle est historiquement que par l'usage qui en est fait. C'est important de le dire. On remarquera que certaines formations politiques, notamment le Front National, pour pas le nommer, utilisent la laïcité de façon bien tardive, puisque pendant très longtemps, les acteurs principaux de ce parti étaient plutôt anti-laïques. Ils l'utilisent moins comme fin en soi, mais comme moyen d'altérisation, j'utilise le terme que j'ai énoncé tout à l'heure, comme moyen d'altérisation des musulmans en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam.
Oui, alors qu'en réalité, selon une des formules consacrées, mais au-delà de la formule, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. On oublie d'ajouter que c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, mais surtout de pouvoir aussi changer d'options métaphysiques et religieuses et de croyances. Ce qui n'est pas garanti, hélas, et c'est même très euphémistique, en contexte islamique. La liberté de conscience, la liberté religieuse, criminaliser l'apostasie est en soi criminel.
Oui, d'ailleurs ça me permet aussi de continuer à administrer les points de critique. C'est qu'il y a des musulmans aussi, alors les plus engagés dans le tissu social français, qui sont très favorables à la laïcité du point de vue hexagonal, quand ils sont en France, mais qui condamnent la laïcité dès lors qu'elle serait possiblement appliquée ou applicable en contexte majoritairement musulman. Un principe est bon ou non, ou il ne l'est pas. Donc si on est favorable à la laïcité en France, on devrait être favorable à la laïcité ailleurs. Cela me fait dire, et je rebondis immédiatement sur votre juste remarque, effectivement, le fait que l'islam soit étatisé ou administré ou institutionnalisé en contexte majoritairement musulman provoque des douleurs profondes chez certains individus qui peut-être ont un héritage culturel musulman, mais qui n'accordent plus de positivité à la tradition religieuse, qui n'observent pas la religion. Et d'ailleurs, ce qui m'a sauté aux yeux et aux oreilles, pour le coup, lors de mes pérégrinations en contexte majoritairement musulman, c'est que vous avez certains acteurs de gauche qui évoluent dans ces contextes-là, qui n'osent pas dire qu'ils sont athées, de peur d'être excommuniés collectivement et d'apparaître comme des moutons noirs dans ce contexte. Et on a des exemples de penseurs qui ont été fortement contraints dans leur vie personnelle, notamment Nasr Hamid Abu Zayd.
Et le cas patent et scandaleux, c'est qu'on l'avait divorcé d'avec son épouse sous un prétexte spécieux et fallacieux que dès lors qu'il a commis, écrit ce qu'il a dit et fait, du coup, il est devenu apostat et de fait, son épouse ne lui est plus licite, pour utiliser le terme ou le jargon consacré. Il y a du même ordre des cas tout aussi scandaleux. Qu'est-ce que c'est que cette administration qui judiciarise le fait de ne pas observer le jeûne pendant le mois de Ramadan dans ces sociétés majoritairement musulmanes, comme vous le dites si bien?
C'est une fabrique, c'est là le paradoxe. C'est que contraindre à l'observance est une manière de fabriquer de l'hypocrisie, par ailleurs dénoncée par un certain nombre de clercs. C'est-à-dire que vous forcez quelqu'un à croire ce en quoi il ne croit pas, et à jouer de faux semblants pour paraître musulman aux yeux de ses co-religionnaires supposés, ou de ses concitoyens plus exactement. Et il est vrai que cette question de l'apostasie, mais d'autres formes de violence symbolique, le fait de vouloir imposer des rites au reste de la société. Et cela ne tient pas à l'hégémonisme occidental. Et là, on retrouve un des aspects qu'on a envisagé dans cet entretien. C'est-à-dire que tout ne s'explique pas, le retour du religieux ne saurait s'expliquer uniquement par une géopolitique mondiale où les Suds seraient dominés par les Nords. Parce que le crime d'apostasie, c'est une question nationale, interne, et ça engage d'abord et avant tout les régimes et ceux qui leur sont favorables.
Donc cela met fin, pour réagir tout de suite à propos de ce que vous avez dit, à toutes ces tendances conspirationnistes, ces lectures complotistes qui finalement fragilisent l'esprit en interne. Au lieu d'être alerte et de trouver dans une critique constructive comment laisser place à la liberté de conscience notamment, et à l'égalité foncière entre les citoyens, une égalité ontologique, eh bien on se défausse sur l'impérialisme et le complot de ces puissances étrangères.
Oui, on traque toujours derrière le choix d'un individu en contexte majoritairement musulman, mais pas uniquement, l'idée qu'il y aurait l'Occident tout puissant derrière ses choix, notamment le fait de quitter l'islam, par exemple. En revanche, ceux qui reprochent aux uns et aux autres de quitter l'islam se satisfont généralement du fait que certains embrassent l'islam. Une contradiction qui n'est pas des moindres. Conspirationnisme, pour reprendre une formule d'un collègue, c'est douter de tout pour ne plus douter du tout. Et le conspirationniste, en règle générale, est insensible au principe de non-contradiction. Il évolue dans un univers mental tautologique. Le monde est vrai, quelle que soit la configuration. Et c'est vrai que le conspirationnisme, souvent, et je dois le reconnaître, dans la littérature idéologique de l'islam politique, est très présent. Très présent avec cette idée, toujours cette idée force, que derrière les malheurs, les heurts et malheurs des sociétés majoritairement musulmanes, régnerait un puissant Occident, parfois Israël, les Juifs, etc. Et cela aussi mérite d'être mis en évidence.
Hawa Seniger, comment faire pour sortir donc de cette mentalité obsidionale et sortir de cette idée qu'on serait assiégé et du coup il faut se serrer frileusement les coudes pour pouvoir réagir? Un sursaut intérieur, un travail d'ordre intellectuel, l'éducation, la démocratisation?
Je pense que tous ces éléments sont importants. Je dirais du point de vue religieux cette fois-ci, plus précisément du point de vue de l'islam. Et je reprendrai des catégories d'un collègue et ami, Jean-Marc Ferry, pour ne pas le citer, qui a écrit un merveilleux ouvrage, La raison et la foi, paru récemment, où il dit très clairement qu'il y a une manière de redonner confiance à des formes de vie religieuse, ou à la religiosité, ou à la religion. Que la religion, au fond, accepte le faillibilisme et le criticisme, essentiellement. Le faillibilisme, c'est que quand les individus se réclamant de telle ou telle tradition religieuse acceptent que leur point de vue n'est pas absolu et définitivement et définitif dans l'espace public. Le criticisme, c'est de pouvoir accepter qu'on est réfutable dans ses arguments, y compris des arguments puisés dans les traditions religieuses. Et cela doit effectivement à la délibération publique, il y a donc un espace de démocratisation. Je crois qu'en France, il y a de l'espace et de la place pour cela, mais aussi de l'éducation et de l'instruction religieuse. On ne peut pas simplement résoudre cette question de façon politique. La démocratie est une condition sine qua non. Le débat, mais il y a aussi une instruction religieuse. En d'autres mots, le magistère religieux musulman a besoin aussi d'accepter que le point de vue de l'islam n'est pas le seul et l'unique, et surtout qu'il y ait mille et une manières de se représenter cet héritage. Oui.
D'autant plus que ceci n'est pas nouveau. Shafi'i, mort en 820, disait bien que lors des débats, mon avis, je le crois juste, mais il peut être entaché d'erreur, et l'avis de mon contradicteur, je le crois faux, mais il recèle sa part de vérité. Voilà, l'éthique du débat. Nous étions avec Hawa Seniger, sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bernard Laniel. La réalisation est toujours assurée et assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.
Thank you.